Bonjour et bienvenue sur Autre Radio, Autre Culture, Audio People. Toujours dans le cadre des rencontres de la création sonore 2011 organisées par le magazine Réalisation à la SAE, voici à présent une conférence sur les avancées de l'AVB, Audio Video Bridging. Une première partie sur les travaux de l'Avenue par Alain David.
Eh bien écoutez, bienvenue, merci d'être venu dans la découverte de l'Audio Video Bridging, AVB, qui est un truc dont on parle beaucoup. Alors, cette présentation de ce matin est plutôt un tutoriel sur AVB. Il y aura en deuxième partie Franck qui va intervenir sur les équipements, les réalisations. Ça sera le côté chef-produit, alors que moi, je me place là du côté tutoriel, donc plutôt du côté technique. Et c'est valable, quels que soient les équipements. À l'heure actuelle, le type de liaison que nous utilisons est hérité de l'analogique, c'est-à-dire que nous utilisons des liaisons de point à point. Ce sont des liaisons qui ne vont que dans un seul sens et qui nécessitent un câble spécifique qui est dépendant du signal. En numérique, on n'a pas eu franchement de différence. Hein. L'AES, on a deux canaux, mais ça va toujours dans le même sens et c'est toujours une liaison de point à point. Le MADI, c'est pareil. Même en SDI, quand on transporte de l'audio numérique avec de la vidéo numérique, ça reste pareil, il n'y a pas de grande différence. Alors, les inconvénients de ça, c'est que le câblage est globalement plus cher parce que ça oblige à maintenir plusieurs stocks. Chaque fois que je veux remettre un nouvel équipement, je suis obligé de refaire une modification du câblage. Et chaque modification du câblage va me prendre du temps pour la faire et va engendrer un risque d'erreur. Alors, quand je parle du risque d'erreur, je pense que ceci résume bien la difficulté qu'il y a à entretenir une installation. Regardez le nombre de câbles différents qu'il peut y avoir, le nombre de connexions, c'est un peu l'enfer. Et c'est un enfer que nous vivons. Alors, il y a eu des réponses à ce problème qui date pas d'hier. On a eu des technologies spécialisées comme le FireWire. On a eu des réponses propriétaires basées sur des technologies réseau, CobraNet, EtherSound, LiveWire. Il faut rappeler qu'on a le but d'une liaison TCP/IP, c'est de transporter des données dans un temps indéterminé, le plus vite possible, avec une gestion minimale du réseau, de faire que ça se débrouille. Voilà. Alors en clair, ça veut dire que le protocole TCP/IP ne gère pas la synchronisation, le temps de transport et le temps de sortie. Il promet de faire ses meilleurs efforts, il promet même pas que ça va arriver. Et il y a un risque important d'engorgement sur un réseau, puisque les entrées sur le réseau ne sont pas gérées. La sortie, ceux qui peuvent en sortir, les paquets sont arrivés, youpi, ça marche. Alors évidemment, pour faire de l'audiovisuel, ce n'est pas acceptable. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand on envoie un paquet, quelques octets d'audio, de vidéo, on veut qu'ils arrivent vite, qu'ils arrivent tous dans l'ordre. On a toutes ces difficultés. Alors par exemple, il va falloir synchroniser les flux. Alors synchroniser les flux, il y a deux choses. On peut synchroniser des flux qui sont complètement audio lorsque ça arrive sur le line array de gauche et de droite. Si on veut que ma stéréo reste en place, il faut absolument que je sorte avec au maximum un échantillon de latence, de délai entre les deux line array. Il ne faut pas oublier que le line array a ses propres problèmes, que le spectateur, la positionnement. Et donc, si on veut que la stéréo soit respectée, il faut que chacun des constituants du signal stéréo ou multicanal ait la tolérance la plus faible. Grosso modo, l'objectif est d'un échantillon. Lorsque l'on synchronise des flux audio et vidéo, l'objectif est beaucoup plus lâche. Une image. En fait, la plupart des recommandations de la FICAM, de la BBC, on serait en fait dans la demi-image, donc dans 20 millisecondes. Donc entre 20 millisecondes et 20 microsecondes, il y a quand même un facteur 1000. Donc si on sait faire l'un, on arrivera forcément à savoir faire l'autre. L'objectif de latence, ça c'est entre l'entrée et la sortie, entre l'action et la réaction. Pour des gens qui font du jeu, entre le moment où j'appuie sur un bouton et le moment où il va se passer quelque chose dans la machine là-bas, 30, 40 millisecondes, un bon ingénieur du son en mixage film a un temps de réaction inférieur à l'image. Hein. C'est-à-dire que quand il appuie sur record, il faut que ça fasse record dans moins d'une image. Sinon, ah, il n'a pas fait record là où il pensait le faire. Pour les musiciens, c'est beaucoup plus court. Il y a eu des mesures qui avaient été faites à la BBC pour savoir pour le réseau ATM. Enfin, la BBC, vous l'avez vu dans la présentation de Mathieu hier, l'AES 47 permettait de transporter de l'audio sur un réseau ATM. Quel était l'objectif de latence du réseau? Ah, ils ont fait des tas d'essais et 3 millisecondes, le résultat. En clair, l'objectif, c'est deux personnes éloignées d'un mètre dans l'air. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Donc, c'est court, d'autant plus qu'un réseau bon an mal an, il va d'un point A à la console, et de la console, dans les wedges, dans les bains de pied, il faut que ça fasse 3 millisecondes, tout compris, maximum. C'est chaud. Bon, on peut y arriver. La disponibilité du réseau. C'est bien d'envoyer quelque chose sur le réseau, mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte au bon moment. Donc là, il y a deux choses. D'abord, il faut être sûr que le réseau n'est pas engorgé, c'est-à-dire que le réseau est disponible avant de transmettre. Et une fois que c'est parti, il faut être sûr qu'il n'y a rien d'autre qui va se passer, qui va venir engorger le réseau. Ça a engorgé le réseau. Tous ceux qui prennent l'autoroute le matin, l'autoroute A1, voient bien ce que c'est qu'une autoroute engorgée. Du coup, on a mis des feux rouges de temps en temps pour freiner le trafic, pour ralentir le trafic. Eh bien, c'est un peu ça. La gig qui est une variation du délai de transmission, est aussi quelque chose d'important parce que plus ma gig sera faible, plus mes paquets arriveront avec un écart de temps minimal. Donc, je n'aurai plus besoin à l'arrivée que de très très peu de mémoire tampon. La plupart des équipements numériques ont à l'heure actuelle un tampon d'un échantillon en entrée. Donc si l'échantillon n'arrive pas tout à fait en phase, si j'ai parcouru un peu plus, c'est pas grave, ils sont repris à l'échantillon suivant. Donc on va dire que j'ai une latence de 20 microsecondes en entrée. Génial. Si j'arrive à faire ça, mais il ne faut pas avoir plus de 20 microsecondes. Donc, à l'heure actuelle, on le sait, 125 microsecondes chez Ethersand, entre 1,3 et 5,6 chez CobraNet, et ainsi de suite. On a cette solution. Ce délai sera d'autant plus court, donc la latence, là, le chapitre au-dessus, sera d'autant plus court que le réseau marche comme un coucou suisse, quoi. Et que chaque fois que ça rentre, bing, ça va ressortir dans un délai qui est à peu près connu. Et puis, la dernière chose à résoudre, c'est que si je veux utiliser un réseau, utiliser une infrastructure réseau, il est indispensable de pouvoir partager le réseau, de partager mon flux avec. C'est bien de faire le nid de coucou et d'aller mettre ses œufs, d'aller mettre ses paquets, pardon, dans le flux de la direction des services informatiques, la fameuse DSI qui règne en maître dans beaucoup d'endroits, à une seule condition, c'est qu'on soit bons camarades et qu'on nous prête le réseau, mais nous, il faut qu'on accepte de passer autre chose. Alors ça, c'est toute la grande difficulté. On y arrive, hein. Radio France ne travaille plus que sur réseau, et on y arrive. Mais il faut être gentil avec les autres. Voilà, il ne faut pas prendre tout le débit. Petit rappel d'informatique pour ceux qui n'étaient pas là hier. Le réseau est découpé par l'Organisation internationale de standardisation en couches, c'est le modèle OSI. Chaque couche remplit un service pour la couche du dessus. Alors la première couche, c'est le bout de câble ou la fibre de verre. Deuxième couche, c'est la couche liaison Ethernet, Wi-Fi, sont des très très belles couches liaison. On arrive après à la couche réseau, c'est IP, qui est maintenant le truc qui a tout phagocyté. Au-dessus d'IP, on a la couche transport avec TCP, UDP, puis après ça, les couches applications. Chaque couche et chaque protocole écrit ses entêtes dans le flux. Alors évidemment, à chaque fois qu'on met des entêtes, je viens diminuer la quantité de data que je pouvais écrire dans le flux. La taille des paquets, la taille de l'ensemble est donnée pour des raisons de propagation, des raisons de protocole. Bon. Donc, ça vient diminuer. Cela étant, il en reste quand même pas de problème. Et chaque fois qu'une couche, donc un protocole, reçoit quelque chose, il va interpréter ses entêtes, va comprendre de quoi il s'agit et va les supprimer et passer le résultat à la couche du dessus, qui elle-même dit « Ah tiens, c'est pour moi, ah ben oui d'accord, il faut que je fasse ça » et hop, qui le passe à la couche du dessus. Voilà. Et quand ça part, eh ben, il fait la même chose, ça descend, c'est transporté par la couche physique, ça remonte, bah, bien. Voilà, ça c'était un petit rappel informatique. Je ne savais pas que Mathieu hier mettrait autant d'explications sur cette couche-là. Alors, l'utilisation des réseaux, elle ne date pas d'hier, elle ne date pas de ce matin, loin de là. Et les réponses qui ont été apportées jusqu'à maintenant sont essentiellement des réponses propriétaires. Ah, en clair, il y a une licence à payer. Il y a un ticket d'entrée. Voilà, il faut payer quelque chose. La plupart des solutions passent sur des réseaux locaux et dédiés. Réseaux locaux, ça veut dire je ne vais pas sortir de mon réseau, je ne vais pas aller sur un autre réseau. Réseau dédié, ça veut dire que j'ai pris toute la bande passante, en clair. Je me suis isolé du réseau général de l'informatique pour utiliser l'infrastructure informatique. Je me souviens avoir lu un article sur Ethersand et le palais des congrès de Montreux. Quand il y a le festival de jazz, ils utilisent Ethersand, mais ils isolent le réseau Ethersand du réseau informatique. Bon, il faut être très, très copain avec l'ingénieur réseau, quoi, l'administrateur réseau, parce que c'est sans arrêt, il faut rebrasser, c'est pas rigolo. On ne peut pas accepter de trafic concurrent. Ou bien on est sur des liens à très très haut débit, gigabits. Et là, on peut se dire statistiquement, dans la maison où personne ne va faire suffisamment de requêtes Internet, d'impressions, de fiches de paye, ça va se débrouiller. Mais il y a toujours le cas, il y a toujours le doute. Alors il y a une autre solution. Ethersand dit pas de trafic concurrent, je veux personne d'autre sur mon réseau, c'est clair. Il y a une autre solution qui arrive à l'heure actuelle, qui est le tunneling, c'est-à-dire... Je suis en charge du transport de l'information sur ma fibre, sur mon réseau gigabit. Je gère, et parmi ce que je gère, j'accepte un 100 mégabits qui vient du service informatique. Mais ce n'est pas le service informatique qui gère mon flux, c'est moi qui gère le flux du service informatique. Nuance. C'est ce qu'on appelle le tunneling. Le tunneling est une fonctionnalité maintenant d'Ethersand de gigabit. C'est une fonctionnalité chez OptoCore. Et c'est une fonctionnalité, il y a plusieurs protocoles qui proposent ça. Mémoire tampon à l'arrivée, à destination. La grande variation du délai de transmission sur le réseau fait que je suis obligé de l'absorber à l'arrivée et de mettre une mémoire tampon en attendant que le plus tardif des paquets soit bien arrivé à destination, ou du moins on l'espère, pour pouvoir faire sortir tous les paquets. Si je pense que je suis sur un réseau perturbé, j'aurais besoin de mettre une grande latence. Quand on utilise un réseau IP non dédié, il faut s'attendre à une latence importante. On se demande où sont tous ces octets. Ils sont quelque part sur le réseau. Il doit y avoir une pile d'octets cachés sous la moquette, sous le truc. C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on a facilement entre 50 et 100 millisecondes d'audio qui sont dans le réseau. Je ne parle pas d'Internet, hein. Je parle dans le réseau local, dans le LAN, quand on fait... Alors, ils sont stockés dans de la RAM, dans du truc, dans du machin, dans les... Waouh ! Ça, c'est quand on passe donc, sur un réseau, un réseau général. Si on passe sur un réseau qui est extrêmement géré, comme le réseau CobraNet, qu'il faut énormément gérer, on arrive à diminuer ça, mais on est encore... dans 5 millisecondes pour 5 switches, je crois. Si on veut bien faire, il faut être très, très copain avec l'administrateur réseau et faire une gestion très fine du réseau, assez complexe. Comment faire pour arriver à connecter des équipements de marques concurrentes en partageant un réseau commun avec une grande simplicité et au moindre coût? Telle est la question qui est posée et qui mérite un grand point d'interrogation. Alors, il y a une recette, il y a une solution. Je vais vous la donner, elle est d'une très, très grande simplicité. Vous inventez l'audio-video bridging. Alors, comment est-ce qu'on invente cette recette? Vous prenez tout d'abord tous les poids lourds de l'industrie. Donc, vous convainquez Cisco, C'est rien, Broadcom, Xilinx, Harman, Intel. Donc déjà, il faut avoir des potes dans le métier. Hein. Alors une fois que vous les avez réunis, vous allez voir l'IEEE, qui est en charge de la normalisation de plein de choses que vous connaissez déjà, FireWire, Ethernet, Wi-Fi, ce sont des choses que vous utilisez régulièrement, qui sont des normes de l'IE. Et donc, vous allez le voir, l'IE, et vous leur dites, j'ai une bonne idée, on va modifier le protocole 802, qui est justement ce dont je viens de parler, Ethernet, Wi-Fi. On va le modifier pour faire un nouveau standard. Donc déjà, il faut avoir des potes à l'IE, hein, parce que c'est pas tous les jours que ça va se faire. Et puis, vous allez faire ça, pas uniquement pour les professionnels. Pourquoi ? Parce que nous sommes un tout petit marché. Il n'y a pas de quoi fondre du silicium à bas coût, à bas prix de revient. Le seul truc qui est possible, c'est de le faire pour le grand public. Et si on le fait pour le grand public, à ce moment-là, on réutilise les mêmes circuits intégrés, les mêmes circuits réseau, les mêmes switches, et à ce moment-là, le coût baisse. Donc, application grand public. Ça, c'est intéressant. Le groupe Harman, il ne faut pas oublier qu'Harman, on connaît Harman Pro, mais il y a tout le groupe Harman qui fait de l'automobile. Il y a toute la partie JBL qui fait du grand public. Et c'est un marché important. Une fois que vous avez fait ça, vous créez un organisme de certification pour vérifier la compatibilité. Avenue. Avenue. Et puis, en fait, pour que ça soit un succès, il ne faut pas vous isoler. Donc, vous rameutez tous les copains. Et vous leur dites, allez, viens avec nous là, à l'avenue, on est entre potes, qui paye ta cotisation. Et alors là, bah, vous retrouvez Avid, Barco, Billon, Bosch, Meyersand, Pivi, Riedel, Sennheiser, Shure, TC, Yamaha. Et bon, donc voilà, là, vous êtes entre du beau monde. Et là, d'un seul coup, vous avez le poids et la carrure pour arriver à faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'AVB, qui est un réseau dont les sources, les destinations et les nœuds de réseau, comprendre les switches, hein, incorporent des nouveaux protocoles 802.1. 802.1, c'est ce qui normalisait Ethernet. Hein. Vous connaissez 802.11, ça c'est le Wi-Fi. Il y en a toute une liste. J'ai la liste pour les amateurs, toute la liste des protocoles 802 gérés par l'IE. Puis l'IE, on gère des tonnes. Alors, dans ce jeu de protocoles, la synchronisation des flux, 802.1AS, le conditionnement du trafic, mettre le trafic sous une certaine forme, gérer les conflits, 802.1Q, il existait déjà, AV pour audiovisuel, le contrôle des admissions, vérifier qu'il ne puisse pas y avoir d'engorgement sur le réseau, limiter, faire quelque chose. Eh bien, 802.1Q80, alors 80, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trouvé, peu importe. Identification des équipements AVB ou identification des équipements non AVB, grosso modo, c'est-à-dire jusqu'où va le réseau, et prévenir les gens, cette machine va fonctionner correctement puisqu'elle est dans le réseau AVB, celle-là ne va pas marcher correctement, elle est en dehors du réseau, je ne peux pas garantir ce qui va se passer, mais au moins je le sais à l'avance. Si ça va fonctionner ou si ça ne va pas fonctionner. À l'arrivée, j'obtiens des modifications qui nous permettent de mélanger du trafic Ethernet classique, bureautique, standard, avec du trafic Ethernet flux audiovisuel. Voilà. Les applications elles-mêmes, là, on était dans la couche, je transporte le flux dans les applications. Il y a effectivement encore quelques protocoles qui sont à adapter pour AVB. Les P1722 pour déterminer le délai maximal, pour connaître quel est le délai dont j'ai besoin, le buffer dont j'ai besoin à l'arrivée. Enfin, oui, le buffer, la mémoire tampon. Quel est le pire cas dans mon installation ? Et il vous garantit que de partout, ça sortira bon, absolument de manière déterministe. Et puis, une petite modification du real-time protocole, ce qu'on a vu hier, ce qui permet de dire quel type de flux c'est, audio, vidéo, est-ce que c'est l'audio 1, l'audio 2, quel était le rôle d'attache du paquet, est-ce que le paquet est parti à quel moment. Voilà, si jamais ça peut arriver sur des réseaux informatiques que les paquets se croisent. Ils ont pris des chemins différents, il y a un chemin plus rapide que l'autre. RTP numérote les paquets pour qu'on les rejoue dans l'ordre. Et donc là, il y a une modification pour tenir compte du protocole. Voilà de quoi est constituée l'AVB. Alors, un petit peu plus dans le détail, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont sioux. La synchronisation, je mets un tampon avec l'heure et la date, à quel moment ce paquet doit être joué, doit sortir du convertisseur, ou doit sortir à quel moment l'application doit le faire sortir, voilà. À quel moment l'application doit faire sortir ça, j'imagine généralement vers les convertisseurs pour aller dans un haut-parleur. Et la synchro labiale, on a intérêt à horodater évidemment les paquets audio et vidéo avec la même heure, de manière à les faire jouer en même temps, et ça assure le synchronisme. C'est plutôt pas mal. Alors il existait déjà un protocole extrêmement sérieux utilisé en métrologie, le Precision Timing Protocol. Alors si on va dessus, pour aller gratter un petit peu ce que c'est, ça nous renvoie directement au NIST, qui est l'organisme américain qui est en charge de tous les problèmes de mesure du temps. En France, c'est l'Observatoire de Paris-Meudon qui est en charge, qui détient les horloges de précision pour la France et qui est en charge de ça. Donc, ce protocole était déjà le Precision Timing Protocol était déjà quelque chose de connu, utilisé en métrologie, de manière à connaître précisément le temps que ça a pris pour transporter le signal. La modification, là, c'est quelque chose qui adapte ce protocole à Ethernet et Wi-Fi, uniquement. Le reste des autres réseaux, on ne veut pas savoir. Ce sont ces deux réseaux-là, Ethernet pour le professionnel, Wi-Fi à la maison, qui ont été retenus. Ce protocole va mesurer le décalage entre les horloges et le délai de transmission. On obtient une précision de quelques nanosecondes. Waouh ! Alors, décalage entre les horloges. Vous avez une horloge ici qui indique 17. J'ai une autre horloge ici qui indique 19. C'est qui a raison ? Alors, on va dire, c'est le maître. C'est toujours le chef qui a raison. Article 1, le chef a raison. Alors, c'est cette horloge-là qui a raison. Alors, comment je fais pour mettre celle-là à l'heure ? Je m'en vais lui envoyer l'heure. Donc, quand il est 17, l'autre le reçoit, il est 19. Ah, est-ce qu'il faut qu'elle se décale de 2 ? Ça dépend. En fait, ça a mis combien de temps à voyager ? Si ça a mis 1 à voyager, ça veut dire qu'en fait, son décalage n'est que d'1. Et au moment où il était 17 de droit divin, cette horloge-là était à l'heure, celle-là affichait 18, il faut en fait que je lui enlève 1, elles sont bien à 17. Quand l'autre lui transmet, ça prend 1, un nanoseconde ou une heure ou un jour, c'est comme vous voulez, pour que l'information arrive. Elle va arriver, elle va indiquer 18, et comme il y avait 1 de décalage dans les horloges, ça me fera 19, c'est ce que j'avais trouvé. Il y a bien deux choses, le décalage entre les horloges et le délai de transmission. Si j'arrive à mesurer tout ça, je peux recalculer le délai de transmission et le décalage entre les deux horloges. Et là, quelques nanosecondes, ça rigole pas, hein, ça devient précis. Une nanoseconde, c'est un bit dans un réseau 10 gigabits. Dans un réseau gigabit, c'est une nanoseconde. Boum, un petit bit qui vient de sortir. La mesure se fait pour chacun des maîtres esclaves. Alors évidemment, le maître transmet son information à la première machine, généralement un switch. C'est assez classique dans l'infrastructure informatique. Donc le switch reçoit ça. Il connaît, il fait la mesure et il sait quelle est l'heure réelle donc, qu'il va retransmettre. Et donc, du coup, il devient le maître de la machine suivante. Et donc, maître-esclave est une notion très temporaire. Chacun est maître-esclave. Sa sortie est maître et son entrée est esclave. Il faut le voir comme ça. Et il y a un problème, c'est qu'entre le moment où le signal rentre dans un switch et le moment où il sort d'un switch, il se passe un certain temps. Ce temps, c'est des nanosecondes. Eh bien, il faut que le switch le mesure. Donc le switch mesure le temps que ça met entre l'entrée et la sortie et vient l'écrire dans le flux. Et ça lui donne sa nouvelle heure de sortie. Donc son nouvelle heure maître. Alors évidemment, ça suppose des nouveaux switches. Ça suppose des switches qui intègrent ce protocole et qui sachent mesurer le temps de transfert, combien de temps ça a pris entre le port d'entrée et le port de sortie, à quelques bits près, à quelques nanosecondes près. Partant de là, je peux avoir une infrastructure où le temps est absolument le même de partout et garanti à chaque moment. Alors, on le voit bien là dans la structure. Ici, on a une machine qui est le grand maître. on va dire, c'est celle-là qui, dans le cadre d'une installation professionnelle, aura l'horloge AES ou bien une horloge qui est gérée par un générateur de synchro vidéo. Enfin bon, ça sera notre grand point de référence. Il donne dans un switcher. L'entrée du switcher est un clock slave, donc un clock master, clock slave. Il refait les calculs et tous ces ports redeviennent des ports maîtres pour toutes ces... Ça revient dans un autre bridge qui, lui, est considéré comme un port esclave, refait ses calculs et ici redonne. Et donc, toutes les heures qui sortent, ce sont des heures qui sont absolument vraies pour chacun des ports. Et ça arrive dans chacune des machines qui vont être des points de sortie. Là, il y aura des convertisseurs et ça ira vers des line array, par exemple. Ou bien un réseau est bidirectionnel. Rien n'empêche que ceci dialogue avec cela. Et, ben bon. Donc, il y a un maître, mais en fait, un maître en termes de synchro audio numérique, et en fait, tous les ports, toutes les machines sont maîtres, et toutes les machines donnent exactement la même heure. Un réseau AVB doit obligatoirement utiliser des switches AVB. S'il n'y a pas de switch AVB, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas conserver cette précision dans la synchronisation. Évidemment, heureusement, ces switches sont compatibles Ethernet 802.1 standard à la maison. Donc, évidemment, ils sont nouveaux, mais ils remplissent tous les services. Une des façons de faire sur un réseau pour faire que un flux audiovisuel arrive toujours, c'est de lui donner une priorité. Donc là, on rentre dans les protocoles de qualité de service. Il y a deux façons de faire. Ou bien j'écris la priorité dans la trame Ethernet, donc dans l'entête Ethernet, et je dis « attention, paquet prioritaire, hop, on se dépêche ». Ou bien je l'écris dans l'entête IP. L'avantage d'IP, c'est que si je change de protocole de réseau, c'est-à-dire que pour aller d'ici à là-bas, je passe à un moment par du protocole ATM, c'est conservé. Les deux existent. Différence de service, quand on fait du YouTube, du Dailymotion, hop, on a un petit coup de la voix sur IP. On dit attention, paquet audiovisuel prioritaire. Il ne faut pas arriver, hein, c'est du chronopost, c'est-à-dire que des fois, ça arrive quand même à la bourre. Hein. Donc, modification de ce protocole. Il y a deux nouvelles classes de priorité qui sont ajoutées dans le protocole. Le résultat de ça, les flux audiovisuels, les flux AV du protocole AVB sont prioritaires sur tous les autres trafics. Et le trafic est régulé. Quand vous devez transporter de l'audio, on a le choix. Ethersound transporte par échantillon. Quand on est en voie sur IP, on transporte par paquet de 20 millisecondes. Entre un échantillon et 20 millisecondes, on a tous les choix, toutes les tailles. AVB dit il faut, on fait ce qu'on veut pourvu que tous les paquets fassent toujours la même dimension, toujours la même taille. Utilisez le réseau de manière régulière pour éviter des gros paquets qui vont venir hors, qui ont du mal à passer. Donc, surtout essayez de faire, enfin, c'est pas essayer, c'est faire des paquets de taille régulière qui peuvent dépendre du réseau lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en 100 mégabits, est-ce qu'on est en 1 gigabit, en 10 gigabits. Il y a une régulation automatique de ça, de manière à optimiser la taille des paquets pour que ça se passe le plus tranquillement possible. Alors, un désavantage de ça, c'est que de ce fait, la gigue du réseau va être énormément diminuée, puisque si on connaît, on sait que le flux s'écoule régulièrement, on va réduire la gigue. Néanmoins, pour que la gigue soit réellement minimale, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne d'un seul coup me perturber, m'empêcher de passer. Donc, la solution, qualité de service. Le stream, alors ça c'est une nouveauté, hein, le stream reservation protocol va venir réserver automatiquement. Ce n'est pas l'administrateur réseau qui le gère, c'est le protocole AVB, donc le 802.1Q80. qui va réserver automatiquement jusqu'à 75% du débit possible sur le lien. OK ? 75%, pourquoi ? Pour laisser de la place aux autres. Il faut quand même être bon garçon, quoi, bon esprit. L'avantage de ça, c'est qu'il va regarder entre toutes les machines du réseau quel est le lien le plus faible. Donc ce lien-là, c'est lui qui va conditionner le débit qui sera possible à cet endroit-là. Et on va réserver jusqu'à 75% de ce débit-là. Si un autre lien peut aller plus vite, il pourra réserver plus de débit, c'est-à-dire faire passer plus de canaux sur un autre lien. Le flux, donc, ne peut être envoyé dans le réseau AVB que s'il a le débit garanti. Ça, c'est extrêmement important. C'est le protocole de garantie de service, mais qui avant était quelque chose qui était géré par l'administrateur réseau. Maintenant, c'est entièrement automatique. Et si jamais le débit n'est pas garanti, eh bien, on a un rapport qui nous dit « c'est impossible à cause de telle machine. Vous ne pouvez pas garantir le débit. » Ah, et tiens, et pourquoi telle machine ? Là, ça nous permet de faire de l'ingénierie, de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Peut-être qu'on a un lien qui est à 100 mégabits alors qu'on pensait être en 1 gigabit sur tout le réseau. Mais au moins, on le sait avant. On n'attend pas que ce soit la catastrophe. On le sait. Évidemment, le réseau AVB, il a ses limites. La limite, c'est quand la dernière machine, le dernier switch n'est pas AVB. Et ne répond pas favorablement aux requêtes du protocole AVB, enfin des protocoles AVB. Donc ça va supposer une reconnaissance de l'ensemble du réseau avant transmission, sa configuration automatique, mesurer quel est le délai le plus long, parce qu'évidemment, toutes les machines qui disent « tiens, j'ai reçu l'horloge avec tout ça de délai cumulé », elle fait remonter l'information. Donc la machine qui émet sait quel est le délai, pire cas, donc quelle est la latence à introduire dans l'horodatage. Tout ça est entièrement automatique. Reconnaître jusqu'où ça va, est-ce que je peux bien aller avec le protocole AVB jusqu'à toutes les machines que j'avais désignées. Donc tout ça, c'est un nouveau protocole, là, le 802.1BA. Oui, BA. Qui permet de reconnaître toutes les machines AVB et de dire, ben voilà, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Donc, un port qui est capable d'utiliser le protocole AVB utilisera réellement le protocole si le réseau fait au moins 100 mégabits de débit, le lien de sortie, s'il y a exactement une machine qui a répondu à sa requête. S'il y en a plusieurs, il dit, oulala, il y a une embrouille, ça ne va pas le faire. Et hop, il dit, je ne peux pas vous garantir AVB. Le délai du correspondant AVB, il faut rester dans une certaine fourchette. En fait, il y a ne pas exploser le délai à cause d'une machine. Donc, il y a un délai moyen que le grand maître aurait trouvé. Et si d'un seul coup, il y a une nouvelle machine qui explose complètement le délai, qui dit « Ah non, non, il y a une embrouille, c'est pas possible, tu vas pas niquer tout mon réseau juste pour une seule machine. » Donc, on en cause d'abord. Et puis, quand il envoie une requête de réservation de protocole, que la machine, eh bien, oui, c'est d'accord, je vous ai réservé, à ce moment-là, on enclenche le trafic. Alors, voilà ce que ça donne. Voici des machines AVB, elles se parlent, c'est-à-dire qu'elles ont réservé leur trafic, elles se sont donné leur précision, les machines ont fait remonter le délai maximal avec lequel elles ont reçu l'horloge. Donc on connaît avec quel horodatage je m'en vais pouvoir envoyer les paquets. D'un seul coup là, sur mon réseau, ici, là, il y a une imprimante. Ben, c'est pas grave, je pourrais avoir du trafic qui va traverser là et venir s'imprimer ici. Ça va fonctionner. Évidemment, sur cette imprimante, sur un réseau 1 gigabit, je n'aurai droit qu'à 250 mégabits de débit pour mon imprimante, 25% restant. C'est bien assez. Il y a un autre petit réseau ici, AVB. J'en suis isolé. Je peux lui envoyer de l'audio, mais il est sur un réseau normal à cause de ce bridge-là qui n'est pas un bridge capable de transmettre AVB. Donc, je peux bien envoyer des flux, mais j'aurai un message qui me dit « Attention, hein, on ne peut pas te garantir le résultat. Il ne fait pas partie de la fratrie. Par contre, eux ici, ça va fonctionner nickel. » Tout ça va fonctionner nickel. Et ce pauvre truc-là, ben, il pourra communiquer en AVB avec personne. Voilà, il n'a pas de chance. Bien. La beauté de ça, c'est que c'est entièrement automatique. Alors, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, tous les protocoles ont été publiés. Ça fait un an que Gisèle me tanne. Alain, fais-moi un article sur l'AVB. Il n'y a rien à dire. Gisèle, c'est pas cuit, c'est pas sorti du four, Gisèle. Bon, c'est sorti du four le 7 avril 2011. Ah, ben maintenant, on sait de quoi on parle. Maintenant, les industriels savent de quoi ils parlent. Maintenant, les industriels vont pouvoir faire des équipements et vérifier si c'est la compatibilité avec les autres. Mais c'est vraiment frais, ça fait un mois. Alors quand Gisèle m'a demandé ça, j'ai dit « Oui, Gisèle, c'est d'accord, je vais te parler de la VB parce que maintenant, c'est bordé, maintenant on comprend, on sait ce qui se passe. » Quels sont les résultats de ça? Alors on a un jeu de protocole standardisé, non propriétaire. On n'a pas besoin de payer quiconque pour que ça fonctionne. Ah, c'est pas mal. On va avoir du silicium à bas prix, parce que d'un seul coup, on va fondre du silicium pour le grand public. On va avoir une latence maximale de 2 millisecondes après 7 bridges, 7 switches. 2 millisecondes maximale. En réseau 100 mégabits, si je passe en réseau 1 gigabit, je vais diviser la latence par 10. Ça va 10 fois plus vite à envoyer la même quantité d'octets. Donc, je peux m'attendre à une latence de 200 nanosecondes de bout en bout. Ah ah, youpi, ça marche. 512 canaux dans chaque sens, puisque le protocole c'est bidirectionnel. Donc, ça a fait. Le résultat, c'est qu'on va avoir des nouveaux équipements audio, et il y en a un. C'est pour ça que Franck est là. Mais si on a des nouveaux équipements audio, il faudra aussi penser qu'on aura des nouveaux équipements informatiques qu'il va falloir remplacer les switches sur le réseau. Alors, c'est un moindre mal dans la mesure où ils sont réutilisables ailleurs. Et quand on met un nouveau switch AVB, il remplit les fonctionnalités de l'ancien. Donc là, d'un seul coup, le Palais des congrès de Montreux peut faire, n'embête plus. Il embête une fois l'administrateur réseau pour remplacer les switches et après tout fonctionne automatiquement. Ah ah ! Quels équipements ? Le plus important, c'est d'avoir les switches. Parce que si on n'a pas les switches, on ne peut pas travailler. Il y en a trois pour l'instant. LabX Technology, Marvel et BSS Netgear. Voilà, on reconnaît bien un appareil Netgear, sauf que là, oh, coucou, il y a le logo BSS. Et alors là, c'est un truc sérieux, il y a quand même 24 ports, donc on arrive à faire du réseau cossu. Hein. Dans les équipements, Avid a montré une carte prototype pour la console Venue. Krone a sorti une carte pipe. Il y a donc maintenant des cartes pour les amplis Krone qui sont soit avec les cartes réseau IQNet avec CobraNet et les cartes réseau IQNet avec AVB. Il y en a peu, ça fait peu d'équipements, hein, mais il faut dire que le protocole, il est sorti il y a un mois. Alors, ils ont beau travailler dessus, c'est quand même dur de lancer recherche et développement tant que le protocole n'est pas bordé. Maintenant, ils vont pouvoir travailler. Il faut s'attendre à une explosion de ça. La belle chose, c'est que ce réseau AVB est entièrement compatible Ethernet et IP. Ça, c'est fondamental. Maintenant, AVB est-il compatible avec les autres protocoles? Ethernet, niet. CobraNet, nein. Ravenna, oui, possible. Possible, c'est extrêmement proche. En fait, Ravenna utilisait les jeux de logiciels dont on a parlé, le Precision Time Protocol, les qualités de service, tous les protocoles qui existaient avant qu'ils ne soient modifiés. Donc, il y a quand même des grandes chances. On peut les adapter. Il faut faire un petit pas. Dante, là, c'est imminent. D'après Audinet, j'espère qu'ils vous en ont parlé hier. J'ai été trop bavard avec M. Roy et M. Erré. Et donc, je n'ai pas pu assister. Mais sur leur site, c'est très, très clair. On le voit ici, les quelques petites différences. Au lieu d'utiliser RTP, il faut bien utiliser le 1722. Il faut qu'ils modifient ça. Avant, ils utilisaient le protocole de base de PTP. Maintenant, ils vont utiliser le nouveau. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça devienne compatible. Et c'est écrit en gros sur leur site. Alors, ça paraît un peu bizarre que Audinet et Ravenna proposent d'utiliser des jeux de protocole standard. Dans la mesure où, en utilisant des protocoles standards, j'utilise un protocole propriétaire. En clair, il faut que je paye. Toutefois, ce n'est pas aussi simple. Quand on a eu FireWire, c'était chouette, on pouvait faire passer plein de choses dedans. Et comment je fais pour faire passer toutes ces choses? Il a fallu attendre d'avoir le MusicLAN de Yamaha, mis dans le domaine public, pour qu'on sache. Il a fallu attendre d'avoir le DV, la norme DV qui utilise le FireWire pour faire passer de l'audio, de la vidéo, du timecode. Il manque encore des couches pour être sûr que tout ça va fonctionner pour des applications multipistes, multicanaux, pour faire de la post-prod, pour faire du live, pour faire si il y a encore un peu de travail. Alors, normalement, c'est Avenue qui est là pour faire un travail de compatibilité au niveau du protocole et, si possible, au niveau des applications, hein, c'est-à-dire faire que je branche, ça marche. Extraordinaire. Donc, Ravenna, leur feuille de route, c'est justement de proposer tout ce qui manque pour que je puisse faire du broadcast, faire du live, faire de la post-prod en reliant tous mes équipements, toutes mes consoles et que tout fonctionne. Chose qui n'est pas forcément prévue, hein, dans Audio Video Bridging, on est au niveau du protocole. On a au niveau de l'application, quelque chose pour connaître le réseau, bien tout ce qui va concerner l'utilisation du protocole. Maintenant, multipiste, je transmets la piste 64 en premier ou la piste 1 en premier. Faut se mettre d'accord, hein, sinon le son, ça va pas être le bon en sortie. Ça m'a toujours amusé que la plus grosse difficulté entre Apple et Microsoft a toujours été, je commence par le bit de poids fort ou le bit de poids faible quand je transporte un octet. Et ça a mis très longtemps à pouvoir être résolu. C'est rien, il suffit de retourner les octets quand on les reçoit. C'est là où il reste du travail à faire et où Ravenna et donc se propose d'intervenir justement pour faire le travail. Mais bon, c'est rajouter des couches propriétaires, sauf que Ravenna promet de le mettre dans le domaine public. Voilà. Je ne pense pas que Audinet prévoit de le mettre dans le domaine public, donc il faudra qu'il soit meilleur que Ravenna. Bon, alors on verra. L'histoire n'est pas... Voilà, l'histoire s'écrit. Ben voilà, et ça fera encore d'autres conférences AVB pour dire maintenant AVB.2. C'est encore mieux. Voilà, des questions ? Alors, ou bien je vous ai complètement largué, ou alors j'ai été franchement brillant. Un des deux. Bon, je préfère l'option 1, évidemment. Ah, chic. Alors, nous avons ici microphone, transmission sans fil par onde électromagnétique.
Bonjour. Donc, l'objectif, bonjour. Là, c'est de relier à peu près quelle distance entre deux appareils sur un réseau qui sera en AVB ?
Alors, j'ai trouvé cette information nulle part. Je pense que l'objectif est de relier des gens qui sont dans la même organisation, donc qui sont dans un LAN. Alors, je ne sais pas, quand on parle de France Bleue ou de France 3, ils ont leur propre réseau. Il est grand. Alors, est-ce qu'on dit encore un LAN ? C'est un réseau privé, mais il n'est pas franchement local. Entre Lille et Biarritz, il n'est plus très local. Donc, ça doit être un WAN, un Wide Area, mais il est géré, il n'est pas public, il est complètement privé. Ce sont eux qui... Hein, et ils payent cher à Neuf Télécom pour que voilà, cette qualité de service audio-vidéo soit respectée. Je n'ai nulle part compris que le but, d'abord, il y a des protocoles qui sont restreints à Ethernet et Wi-Fi. Je ne suis pas convaincu que Ethernet soit le protocole utilisé pour faire des transmissions par satellite, pour passer dans de la fibre sous l'Atlantique et ainsi de suite. Donc pour moi, le simple fait qu'on utilise Ethernet le limite à des réseaux privés gérés. Radio France a son réseau France Bleu qui lui permet de s'échanger entre tous les émetteurs, tous les studios avec l'UER. Bon, c'est du réseau. Ça leur coûte cher parce que l'administrateur réseau, il le paye. Il paye cette qualité de service que peut-être avec AVB, Inch'Allah, hein, ça se fera tout seul. Enfin, ça ne va pas se faire tout seul du premier jour.
Est-ce qu'il est prévu avec l'AVB des outils de monitoring sur ce qui se passe sur le réseau ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Absolument. Ça fait partie des protocoles. Alors maintenant, comment ce protocole va-t-il être implémenté dans les machines ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des outils de monitoring à faire tourner sur un PC ou bien ça sera suffisamment simple pour le mettre dans chacune des applications du genre préampli micro, sortie console ? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas idée. Ça fait partie du protocole de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va, qui ne va pas et qu'est-ce qui se passe. Indépendamment des outils de gestion informatique habituels. Il y a des outils pour faire ça qui nécessitaient des switches spéciaux. En fait, on a aussi des switches spéciaux, mais qui font remonter l'information sous la façon « j'ai réservé le débit, j'ai mis tel délai et je parle à des gens qui me comprennent ». Donc c'est peut-être un peu plus limité que la gestion du Small Network Management Protocol, SNMP, qui est quand même le truc très très utilisé pour gérer les réseaux. Ah ah ! Eh bien, messieurs, pas mesdames, merci pour votre attention. Après la pause, Franck Waffray, qui est chef produit chez SCV Comprendre chez Harman France, va nous entretenir de la vision du côté constructeur et non pas du côté normalisateur. Voilà, donc une vision plus proche de l'opérateur. Merci à vous et bon café. Merci.
Autre radio, autre culture.